Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, on se retrouve pour l'avant-dernier numéro de ce magazine. Et oui, tout a une fin et dans une semaine s'achèvera une aventure radiophonique commencée en septembre 1996, il y a donc 28 ans. Des milliers d'invités et la mise en valeur d'une multitude de reportages de RFI depuis plus d'une génération. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité que nous avons souvent reçu dans cette émission au fil des années pour notre plus grand plaisir. Il s'agit de l'écrivain voyageur Olivier Weber. Commençons ce numéro avec une nouvelle optimiste, une jeune pâtissière ivoirienne. A en effet été intégrée à l'Académie culinaire de France. Il s'agit d'Awa Touré qui est à la tête de la maison Manjou, une biscuiterie fine créée il y a 3 ans à Abidjan. Cette jeune femme fait désormais partie de cette institution française et compte y faire connaître bien sûr les valeurs de son terroir. Binta Diagne l'a rencontrée dans son atelier dans le quartier d'Angré à Cocody.
Awa Touré découpe une longue plaque de biscuits à base de café. Elle les tamponne ensuite un à un avec un moule en forme de M comme Manjou. Hibiscus, gingembre, pain de singe, Awa Touré met en avant les saveurs et les produits du terroir.
J'utilise principalement de la farine de riz locale et des matières premières locales. Donc ici, vous avez du café local qui vient précisément de Benoît. Et moi, je travaille qu'avec des prestataires locaux qui sont principalement que des femmes, qui travaillent avec multiples coopératives à l'intérieur du pays, qui sont aussi des femmes.
Awa Touré s'est formée aux États-Unis où elle a décroché un bachelor en journalisme et en business administration. À son retour au pays, cette jeune de 28 ans, cuisinière et pâtissière autodidacte, se consacre à sa passion. Elle crée une biscuiterie qui est aussi un traiteur de luxe et un salon de thé. Elle renoue en même temps avec l'histoire de la sous-région en mettant en avant une personnalité emblématique sur ses boîtes, Samoré Touré.
Manjou, c'était le surnom de l'illustre guerrier Samoré Touré, qui lui a été remis en hommage par le peuple de l'Empire Ouassoulou. Et pour ce peuple-là, Manjou symbolisait la gloire, la richesse, l'indépendance, la royauté, la divinité, le leadership et surtout l'humilité.
Intégrer l'Académie culinaire représente pour cette jeune un signe de reconnaissance. Awa Touré espère aussi ouvrir des portes à d'autres jeunes talents ivoiriens.
Et bravo à Awa Touré. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour Pierre-Édouard Deldic.
Je suis ravi de vous accueillir. Un peu de douceur dans ce monde de brut ne fait pas de mal.
Oui, absolument. Et puis bravo pour toutes ces nouvelles positives. Bravo aussi pour cette belle émission qui se termine, si j'ai bien compris. Et puis oui, un respect, un salut à ce genre d'initiative, comme cette jeune ivoirienne, parce que bah voilà, c'est aussi ça l'Afrique. Et on apprend plein de choses par vos correspondants. C'est l'esprit d'initiative, c'est essayer de trouver des solutions. Alors là, en l'occurrence, c'est l'Académie culinaire, mais on connaît plein de petites initiatives comme cela en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, Afrique centrale, sur améliorer le quotidien. Il y a aussi les gestes de la société civile ou des sociétés civiles qui sont extrêmement foisonnantes, extrêmement actives en Afrique, de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par l'Est et l'Ouest. Donc voilà. Ah oui, ce sont des nouvelles positives qui nous font du bien. Je crois beaucoup en ça, ce maillage de par le monde, des petites ONG qui sont de plus en plus des ONG du Sud. Donc cette société civile dans ce qu'on appelle le reste du monde demeure plus que jamais un exemple.
Olivier Weber, je le disais, nous avons eu l'occasion souvent dans cette émission de converser au fil des années. Et en préparant cette émission, je me suis souvenu que votre premier livre était consacré à l'URSS détruite et à la renaissance de ce pays sous le nom de Russie. C'était en 1992, votre premier livre, il me semble, non ?
Oui, absolument, c'est mon premier livre. C'était un long voyage en ex-URSS de plusieurs mois, avec des reportages qui m'ont valu le prix Albert Londres. Et je voulais traverser les Pays-Baltes, aller dans le Caucase, aller en Ukraine, en Crimée déjà, bien sûr en Russie, en Azerbaïdjan et ailleurs, et savoir ce que devenait l'ex-URSS, son étranger proche, comme on disait à l'époque, comme on le dit toujours, et donc avec ses anciennes provinces ou républiques vassalisées qui devenaient indépendantes. Et c'était passionnant, c'était à chaque fois, par chapitre, un personnage, une thématique. Donc qu'on passait d'humanitaire à des mafieux, à des policiers corrompus, mais en même temps, comment dirais-je, une redéfinition de cet espace russe, et puis, j'allais pas dire pan-russe, mais de l'étranger proche de l'ex-URSS qui se dessinait. Et voilà, il y a des tendances lourdes qui se dessinent, non seulement sur la corruption, mais aussi sur les guerres et sur les animosités entre la Russie, qui redevient un empire expansionniste, et puis certaines de ses anciennes républiques, dont l'Ukraine, bien sûr.
Et là, vous nous proposez, Olivier, De l'esprit de résistance, un recueil de 3 de vos livres avec une longue introduction, livre publié aux éditions de l'Aube. Et vous écrivez ceci: « Je constate depuis des années cette incroyable capacité à lutter contre l'oppression par les armes, par la bravoure, par les lettres et la culture, contre l'oubli aussi. »
Oui. Parce que ce qui me fascine dans ces peuples avec lesquels je séjourne ou à qui je rends visite ou que j'essaie de défendre, comme les Kurdes que vous citiez, les Afghans anti-talibans, les Ukrainiens, mais aussi les Arméniens, c'est un incroyable résilience, cet esprit de résistance. On le voit bien avec l'Ukraine, évidemment, y compris de la part des plus jeunes qui n'ont même pas connu la révolution de Maïdan dans les années 2013-2014 parce qu'ils étaient à peine adolescents. Et je le vois également à la frontière afghane avec les résistants face à un pouvoir théocratique extrêmement structuré et quand même très fort qui est le régime des talibans. Eh bien, il y a toujours cet esprit de résistance. Et puis, deuxièmement, ce qui représente quand même aussi une forme de courage, de l'espérance, y compris des femmes. Et voilà, je voulais saluer ces quelques peuples par ce livre, avec cette longue préface. Et c'est aussi, comment dirais-je, le fruit d'engagement, de missions diverses, de missions d'aventure sur le terrain, mais aussi de reportages et de séjours prolongés pour mes livres sur le terrain. Je crois que c'est important de mélanger les idées, les thématiques aux choses vues, aux portraits. Donc voilà, j'apprends beaucoup, évidemment, avec ces peuple, avec ces personnages que je peux rencontrer, et à chaque fois c'est une sorte de leçon de vie pour nous également, pour essayer d'espérer, évidemment dans un monde de plus en plus compliqué, un monde violent, mais en tout cas il y a des exemples de par le monde où il y a encore des résistants. J'étais encore hier avec des Kurdes de Syrie, et bien voilà, là aussi c'est un message formidable de la part de ces Kurdes, hommes et surtout femmes, pour nous dire résister quand il y a une oppression, lorsqu'il y a une tyrannie, qu'elle soit laïque ou religieuse, qu'elle soit d'origine théocratique ou simplement de type néo-impérialiste comme la dictature de Poutine, eh bien il faut se mettre debout et tenter au maximum de résister.
Sept jours dans le monde.
Eh bien, parlons de l'Ukraine, justement, Olivier Weber. Le développement et l'utilisation de drones auront une place centrale dans la stratégie de l'armée de Kiev. Voilà ce qu'a déclaré il y a quelques jours le commandant en chef des armées ukrainiennes dans un message sur sa chaîne Telegram. Les drones jouent un rôle sans précédent en Ukraine dans l'histoire militaire moderne, mais face à la pénurie de munitions, d'artillerie à laquelle elle fait face et au retard de livraison en munitions des Occidentaux, Kiev espère désormais un sursaut technologique afin de surpasser son adversaire, la Russie. À Kiev, les explications de Stéphane Sioran.
Depuis plusieurs semaines, pendant que la Russie tire 7 obus, l'Ukraine n'en tire qu'un seul, signe de la dramatique pénurie de munitions d'artillerie à laquelle l'Ukraine fait face sans que les partenaires occidentaux ne soient capables d'y remédier. En attendant que les industries européennes s'activent, l'Ukraine contient l'avancée russe grâce à un autre type d'arme, les drones FPV, des petits engins pilotés en immersion dotés d'une charge explosive qui s'abattent sur une cible humaine ou matérielle. Un petit drone FPV d'une valeur minimale permet ainsi de détruire entièrement un char d'assaut russe, une tactique dans laquelle les Ukrainiens sont passés maîtres. Néanmoins, les Russes ne sont pas inactifs en la matière et développent également leur flotte de drones qui font des ravages dans l'infanterie ukrainienne. Cet hiver, l'État ukrainien a lancé un projet visant à produire en 2024 1 million de drones FPV, une politique impulsée à Kiev par le dynamique ministère de la Transformation Digitale. Il s'agit là de prendre un ascendant technologique sur l'adversaire, mais à court terme de rattraper la Russie dont les capacités industrielles de production de drones sont bien plus importantes que celles de l'Ukraine.
Le conflit est bien sûr à suivre dans nos journaux. Toujours la guerre en Ukraine, Olivier Weber. Interrogé lundi par l'agence Reuters sur les propos répétés et récents d'Emmanuel Macron sur l'envoi de soldats occidentaux, français notamment, en Ukraine, voici ce que Vladimir Poutine a répondu.
Je pense que tout est possible dans le monde d'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, et c'est clair pour tout le monde, que nous serions alors très près d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Je pense que cela n'intéresse personne. En ce qui concerne la position du président français, il y a déjà eu quelques amendements dans le sens où ce contingent aura des fonctions secondaires, comme de la formation militaire en Ukraine et d'autres fonctions de ce type là-bas. Ce n'est pas très différent aujourd'hui de ce que font les mercenaires. Et puis les troupes armées de l'OTAN sont présentes là-bas, nous le savons. Il n'y a rien de bon là-dedans, surtout pour eux, car ils meurent, et en grand nombre. Mais au bout du compte, ce n'est pas notre choix. Si quelqu'un veut dissimuler ses problèmes politiques nationaux avec une rhétorique étrangère agressive, c'est une technique bien connue et souvent utilisée partout dans le monde. Mais j'aimerais beaucoup que la France ne joue pas un rôle qui conduise à l'aggravation du conflit, bien au contraire. Il y a aussi des discussions sur d'éventuelles voies de règlement pacifique. La France pourrait jouer un rôle. Tout n'est pas encore perdu.
Vous écoutez RFI, suite d'une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Weber, écrivain, journaliste, écrivain aventurier, qui vient de décrire De l'esprit de résistance, un recueil de 3 de ses livres consacrés au Kurdistan, l'Afghanistan et à l'Ukraine, livre publié aux éditions de l'Aube. Olivier, Vladimir Poutine reconduit dans ses fonctions après un simulacre d'élection.
Oui, absolument. C'est une farce avec des curseurs qui ont été ajustés à la fois sur la temporalité, donc la durée, 3 jours de scrutin. Et puis deuxièmement, ce vote à distance qui n'avait été que expérimental jusqu'à présent en 2021. Là, grosso modo, sur ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on a essayé de monter un petit peu les statistiques ou de les baisser pour qu'il n'y en ait pas trop. On pouvait pas aller à 99% ni à 60%. On est bien au-delà des scores précédents de Poutine. Donc voilà, c'est aussi un message non seulement à la population russe. Deuxièmement, bien sûr, un message aux ce qu'on appelle les siloviki, donc les hommes de pouvoir, y compris les institutions militaires en Russie, pour bien dire je suis le seul homme aux commandes. Et puis troisièmement, un message au reste du monde. C'est là toute la logique de perversion d'une dictature, d'un régime totalitaire, que de dire finalement nous ne sommes pas les agresseurs, nous sommes les agressés. Et Poutine lie ce statut d'agresseur, devenant agressé, au sort de la nation. Grosso modo, c'est toute la nation russe qui serait agressée par les valeurs dépravées, non seulement de l'Occident, mais en général des pays démocratiques. C'est vraiment une guerre qui dépasse simplement le bilatéral Russie-Ukraine. On est vraiment dans une guerre entre dictature, régime dictatorial et le reste du monde. Et moi, à force de voyager dans ce genre d'État, ce que j'ai appelé les néo-empires, il y en a 4, et la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran, eh bien on assiste quand même de par cette guerre à une sorte de banalité en fait du fait dictatorial. Donc c'est important aussi de dire non, c'est ce que fait la France aussi. Poutine hausse le ton, mais vous savez, ça fait depuis le début de la guerre. Je suis encore allé récemment en Ukraine, à Odessa en particulier, où j'ai été, enfin pas moi, mais les habitants d'Odessa ont été bombardés par ces fameux drones iraniens, les Shahed. Et bien à chaque fois qu'il y a eu un engagement supplémentaire des pays occidentaux, lui, Poutine, a brandi le chiffon rouge en disant attention, ligne rouge. Qu'est-ce que c'est que la ligne rouge? C'est l'arme nucléaire, mais on sait très bien qu'avec la dissuasion, il n'en va pas ainsi. Donc ce n'est pas nouveau, et je crois, c'est une certitude, Poutine ne comprend que le rapport de force, et donc il faut lui répondre avec le langage de la force.
Effet significatif, Olivier Weber, votre récit consacré à la guerre en Ukraine s'intitule « Naissance d'une nation européenne ».
Oui, c'est ce qui m'a surpris lors de ce nouveau voyage en Ukraine au début de la guerre. Je suis resté assez longtemps j'ai fait 3500 kilomètres pendant un mois à peu près, et ce sont ces jeunes qui m'ont presque fait une leçon de valeurs européennes, une leçon d'européanité, comme je le disais à propos d'un gouverneur militaire qui est en face de la centrale nucléaire de Zaporijjia, mais il n'est pas du tout gouverneur militaire, en fait, il est Evgeny Tuchenko, il est en fait chirurgien. Et à chaque fois, j'ai reçu une leçon parce que on me parlait de droits de l'homme, on me parlait de liberté, on me parlait de liberté religieuse, on me parlait de démocratie. Et alors, il s'agit moins de parler de l'Union européenne, j'en parle pas dans ce livre, que de parler de, comment dirais-je, de cette renaissance de l'éthique, on va dire, et des notions d'adéquation à ce que représente l'Europe. Et voilà, donc ça vient de jeunes qui ne s'en sentaient peut-être pas encore européens il y a quelques années, mais c'est une leçon de vie aussi, en quelque sorte. Et voilà, il y a des réflexions à beaucoup de portraits, mais il y a une leçon de courage aussi à travers cette résistance, cette détermination, cet engagement du peuple ukrainien à résister à l'agression.
Et dans votre introduction de ce recueil, Olivier Weber, vous citez le grand Vassili Grossman, journaliste, écrivain, celui qui a raconté du côté de l'armée rouge le siège de Stalingrad. Et je vous cite, Vassili Grossman, qui a souffert du stalinisme et a combattu deux totalitarismes, le soviétique et le nazisme, se rappelait dans Vie et Destin, grand livre en effet, hein, que, et là je cite Vassili Grossman, l'aspiration de la nature humaine vers la liberté est invincible, elle peut être écrasée mais elle ne peut être anéantie. C'est d'actualité ça.
Oui, c'est d'actualité absolument, et venant de Vassili Grossman qui au départ était un écrivain de la nomenklatura, c'est-à-dire un membre de l'Union des écrivains soviétiques, avait une datcha, une résidence secondaire donnée par le régime de Staline, eh bien, en étant confronté à la guerre sur le front de Stalingrad, dans les tranchées dont vous parliez, du côté soviétique évidemment, donc du côté russe, face à l'armée nazie qui avait détruit une partie de sa famille parce que sa famille était juive, donc, et tout d'un coup, il dit que c'est la même alliance des totalitarismes qu'il voyait des deux côtés, et donc lui, le fait de dire non, le fait de s'engager, le fait d'être en résistance, c'est très important, soit par les armes, soit par la plume, soit par autre chose, on parlait tout à l'heure de la société civile, c'est très important, et c'est d'actualité, je l'ai constaté vraiment encore récemment, il y a quelques semaines en Ukraine, il y a cette détermination de la population, il y a deux choses, il y a d'une part la ligne de front ou les lignes de front en Ukraine, donc l'armée gouvernementale, la défense territoriale, les supplétifs, la réserve, etc., et puis ce qu'on appelait en 14-18, l'arrière. On disait l'arrière tiendra. Là, je peux vous dire qu'il va tenir parce que il y a un engagement de pratiquement toute la population derrière ces soldats, avec plein d'idées, plein d'inventivité, plein d'aide. On confectionne dans les familles des filets de camouflage. Des paysans confectionnent des gilets pare-balles avec des lames de ressort de voitures ou de tracteurs, etc., etc. Donc, il y a vraiment un peuple engagé qui a compris que s'il ne résistait pas, s'il n'arrivait pas à contenir cette agression russe, eh bien, ça en sera fini. Non seulement du territoire ukrainien, mais aussi de la culture, de la langue, de l'identité actuelle que représente la nation ukrainienne.
Une semaine d'actualité.
Et continuons en effet notre voyage, Olivier Weber. Comme en novembre dernier, Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, a été ciblé par l'armée israélienne. Des milliers de personnes s'y trouvaient, selon le ministère de la Santé du Hamas. Des blessés, des patients, mais aussi des familles qui s'y étaient réfugiées. L'armée israélienne affirme que son offensive contre cet hôpital avait un objectif précis, traquer des hauts gradés du Hamas retranchés dans cet hôpital. Elle affirme d'ailleurs avoir éliminé 20 combattants palestiniens. Témoignage à Gaza recueilli par Sami Bourhalifa depuis Jérusalem.
Voilà ce qu'on entend nuit et jour, dit Mohamed qui vit non loin de l'hôpital Al-Shifa. C'est le bruit des avions et des drones israéliens. Dans la nuit de dimanche à lundi, cette activité aérienne s'est intensifiée, le signe d'une opération militaire imminente.
À 2h du matin, il y a eu une incursion dans l'hôpital Al-Shifa. Les forces israéliennes y sont entrées par plusieurs axes. On a entendu d'importantes déflagrations, des bombardements. Des personnes qui étaient dans l'hôpital ont été arrêtées et l'hôpital a été vidé.
Seuls les patients et le personnel soignant ont été autorisés à rester, affirme l'armée israélienne. Les autres, des familles réfugiées dans cet hôpital, ont été forcés de partir, déplore le Gazaoui.
Des gens ont été envoyés vers le sud de la bande de Gaza. C'est tellement triste. Des familles ont encore une fois été séparées. Les gens sont complètement désespérés. Ils sont abattus par cette nouvelle offensive israélienne dans le centre-ville de Gaza, à l'hôpital Al-Shifa. On est démoralisés. C'est tellement dur de vivre dans l'insécurité.
En novembre dernier, les troupes israéliennes étaient déjà entrées dans l'hôpital Al-Shifa, qu'elles considéraient alors comme le quartier général du Hamas. Cette fois-ci, Israël affirme que des hauts responsables du groupe armé palestinien y étaient retranchés.
Et dans nos journaux, on vous parle du projet de résolution américain présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. C'est un tournant dans la position américaine, donc à suivre. Olivier Weber, quel est votre regard sur ce conflit depuis le 7 octobre dernier ?
Ah bah c'est dramatique. Alors autant la réponse israélienne était légitime au lendemain et le jour même du 7 octobre, mais autant cette réponse n'est pas du tout proportionnée. Deuxièmement, il y a vraiment une responsabilité engagée de Netanyahou. D'abord par rapport à la triple faillite du 7 octobre, vous savez, il y a eu trois grosses failles dont il est responsable. Une faille militaire en fait, puisqu'on n'a pas été capable de contenir du côté israélien cette offensive des terroristes du Hamas. Deuxièmement, le fait que Netanyahou, Premier ministre, n'a pas écouté les renseignements, le Mossad et le Shin Bet, qui pourtant l'avertissaient quelques jours et même quelques semaines auparavant de l'imminence d'une préparation d'une attaque de la part du Hamas. Et puis troisièmement, bien sûr, la réponse politique, la faillite politique. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a préféré cantonner la majorité des services de sécurité et de défense, donc militaire et de police en Cisjordanie, pour protéger les colons, y compris les suprémacistes qui l'appuient dans ce gouvernement, plutôt que de protéger toutes les colonies, les moshavs et les colonies agricoles, les villages autour de Gaza. Donc c'est le paradoxe de cette guerre. Netanyahou doit sa survie politique et même sa survie judiciaire à la poursuite de la guerre. Bien sûr, les suprémacistes, je pense à Ben Gvir, deux ministres parmi les suprémacistes de son gouvernement, qui veulent qu'il y ait la poursuite de la guerre à Gaza et surtout qu'on continue de coloniser la Cisjordanie. On vient d'apprendre hier donc qu'il y a eu 800 hectares qui avaient été encore colonisés, donc décrétés en tant que nouvelle propriété israélienne dans la vallée du Jourdain, donc côté Cisjordanie. Et donc bien sûr, il faudra qu'un jour, lorsque la guerre cessera, que Netanyahou rende des comptes. Il le sait, il est accusé de faits de corruption assez aggravés. Il se trouve que Israël est une démocratie et qu'ont été en prison, qu'ont été jetés en prison l'ancien président Moshe Katsav et l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui était aussi le maire de Jérusalem. Eh bien Netanyahou donc pratique une sorte de fuite en avant. C'est très dangereux pour l'avenir d'Israël, d'autant plus encore une fois qu'il a échoué à protéger ses citoyens. C'est la première fois que des citoyens israéliens sont aussi tués en nombre que depuis l'existence d'Israël en 1948. C'est tout à fait contraire au principe, vous savez, des pères fondateurs, y compris Ben Gurion, qui avait proclamé l'indépendance en mai 1948. Donc j'espère que la justice israélienne fera son travail et fera en sorte qu'il y ait des enquêtes à la suite de ces faillites dans le système politique israélien.
Olivier Weber, dans votre livre « De l'esprit de résistance », vous soulignez un des maux de l'époque, en tout cas une des causes des tensions d'aujourd'hui, c'est la recrudescence de la foi évidemment dans le domaine religieux, mais aussi la foi révolutionnaire et même la foi nationaliste.
Oui, absolument, ça fait partie des régimes dictatoriaux, hein, donc la dictature idéologique, celle de Poutine en est une, hein, c'est les tissus d'un régime soviétique, post-soviétique, néo-stalinien, la dictature de type nationaliste, en tout cas qui encourage le nationalisme, on le voit aussi en Chine, avec les cours de patriotisme qui ont donc à l'éloge, on va dire, de la nation Han, c'est-à-dire la grande nation chinoise contre les minorités, et qui ont remplacé donc les cours d'éducation marxiste-léniniste, et puis la dictature religieuse, donc la théocratie. C'est pour ça que je parlais de ces quatre néo-empires qui sont des pays surgis des cendres de vieux empires, hein, donc Turquie, Iran, Poutine, avec la Russie et bien sûr la Chine, et qui redeviennent expansionnistes. Évidemment, c'est grave parce que la guerre d'Ukraine, si elle est gagnée donc par la Russie, permet d'occulter le fait dictatorial et de banaliser grosso modo le système totalitaire. Et donc oui, il y a trois piliers, l'idéologie, le nationalisme ou le populisme, et puis troisièmement la foi, la théocratie, qui de temps à autre s'allie. En tout cas, on voit bien avec ces néo-empires qu'il y a des ententes, que ça soit en Syrie, que ça soit au Kurdistan d'Irak et de Syrie, des régions que je connais bien, que ce soit en Libye, que ce soit en Afrique, il y a une sorte de, comment dirais-je, de modus vivendi, on s'entend entre empires ou néo-empires pour s'arroger tel ou tel territoire, ne serait-ce que la Libye entre Erdogan, le président turc, et bien sûr Poutine, le président de la Russie. On essaye de, comment dirais-je, de redessiner des sous-ensembles flous qui permettent soit aux pays d'être présents par leurs armées, soit par des milices turques ou de type Wagner pour la Russie.
Ou bien encore au détriment, Olivier, de l'Arménie.
Oui, au détriment de l'Arménie, j'y étais encore récemment, il y a deux semaines, l'Arménie, petit pays, aux confluences de trois de ces néo-empires, la Russie, la Turquie d'Erdogan et l'Iran, et qui subit ce jeu des néo-empires, et surtout le fait qu'Erdogan, le président turc, veuille rouvrir en quelque sorte ses propres routes de la soie avec une sorte de corridor pan-turc, donc qui allierait ou qui relierait les pays turcophones ou de langue turque allant de Istanbul et du détroit du Bosphore jusqu'au fin fond de l'Asie centrale. Et il y a un petit pays chrétien qui gêne en plein milieu, c'est un pays de moins de 3 millions d'habitants qui est l'Arménie. Et il y a une sorte d'alliance, enfin plus qu'une alliance, une alliance objective qui est aussi militaire et vénale, commerçante, marchande entre la Turquie d'Erdogan et l'Azerbaïdjan d'Aliyev pour mener des offensives sur l'Arménie. L'Arménie est très inquiète. Moi, ça fait plus de 30 ans que je vais en Arménie. J'ai écrit aussi quelques chapitres de livres comme Frontières, par exemple, sur l'Arménie et cette enclave du Haut-Karabakh qui vient d'être annexée par l'Azerbaïdjan, qui est pourtant une enclave arménienne depuis 2000 ans. Et j'ai trouvé les Arméniens, comment dirais-je, très inquiets, c'est un euphémisme, très inquiets dans leur existence même d'État-nation, qui pourtant est une vieille nation et la première nation chrétienne au monde. Et c'est pas du tout une question de religion, c'est d'abord une question d'identité, de résistance par rapport à une agression qui est une agression de deux dictatures ou de régimes de type dictatoriaux, donc de type dictatorial. Et donc oui, l'Arménie résiste et on est assez inquiets pour la survie de ce petit peuple.
Jours en France.
Suite de cet avant-dernier numéro d'une semaine d'actualité, partons en effet pour la France. Maintenant, Olivier Weber, près de 6 millions d'agents de la fonction publique étaient appelés à la grève mardi pour exiger des hausses de salaire alors que les services publics se dégradent et que de nouvelles coupes budgétaires ont été annoncées par le gouvernement. Des rassemblements avaient lieu un peu partout en France. Dans le cortège parisien, le milieu de l'éducation nationale était tout particulièrement représenté. Amélie Beaucourt et Alice Ménard y étaient.
Moi, quand j'ai démarré, j'avais 3 classes à gérer. Là, maintenant, j'en ai 6 classes à gérer. Donc ça fait le double de travail à faire, le double de copies, le double de conseils de classe, d'attention pour un même niveau de paye en fait.
Double dose de travail, mais pas un euro de plus en 17 ans de carrière. Julie, enseignante, s'est mise en grève pour réclamer des augmentations et des embauches dans son lycée.
Dans notre lycée, notre infirmier, il s'occupe de 1500 gamins. Vous vous rendez compte comment vous pouvez travailler correctement comme ça? C'est pas possible. Pareil pour les assistantes sociales, les collègues de la cantine, de l'administration. Les collègues du ménage, pareil, ils sont pas remplacés quand ils sont en maladie, du coup ils ont à la gueule de boulot, quoi.
Engagée pour la protection de l'enfance, Chantal, assistante sociale en milieu scolaire dans 3 établissements différents, faisait aussi partie du cortège.
Nous sommes peu nombreuses, nous avons 3 années d'études comme les ont les infirmières. Elles ont été revalorisées à 200 euros de plus par mois et rien pour nous, alors que nous abattons un travail essentiel dans les établissements scolaires et nous sommes très très en colère d'être les oubliés de l'éducation nationale.
Des oubliés, il y en avait d'autres. Ce mardi, de l'hôpital à la finance publique, un seul message: des services de qualité ne se feront pas sans des hausses de salaire pour tous les fonctionnaires.
À la surprise générale, le chef de l'État s'est rendu mardi à Marseille pour faire le bilan des opérations antidrogue en cours. Une visite dans un quartier sensible de la ville qui est intervenue après plusieurs opérations policières contre les 2 principaux gangs de Marseille. Une opération coup de com' d'Emmanuel Macron à l'Assemblée, les réactions politiques avec Charlotte Urien-Tomaca.
Rendre la vie impossible aux consommateurs et aux familles de guetteurs. Pour le président de la République, c'est le chemin qu'il faut suivre en ne cédant, je cite, à aucun discours de défaite face au trafic de drogue. Mais pour le RN, cette visite est une opération de communication car les méthodes de l'exécutif sont inefficaces. Franck Alizio.
Rien ne fonctionne, ce n'est que de la com', il n'y a pas de résultat et rien n'est fait. Et le président fait encore du tourisme électoral et politique.
Pour Benjamin Lucas, député écologiste, c'est aussi une opération destinée aux médias.
C'est la méthode du président de la République, de la com à outrance, centrée autour de lui-même.
Son collègue communiste des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville, fustige un manque de moyens pour lutter contre ces trafics.
Je ne crois pas à la magie de ces apparitions. Il y a une préoccupation de l'exécutif autour de ces enjeux des trafics et de tout ce qui accompagne ces trafics. C'est tant mieux, mais ça demande une action dans la durée, ça demande des moyens pour les services publics. Et je constate qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau.
Du côté de la majorité, le président a bien fait de se saisir du sujet. Mathieu Lefèvre.
Il participe aujourd'hui à faire place nette. Et faire place nette, c'est recouvrer la liberté pour les citoyens, recouvrer la tranquillité publique. Donc c'est évidemment un chantier présidentiel compte tenu de l'ampleur de ce qu'est le trafic de drogue dans notre pays.
À quelques mois des élections européennes et avec des résultats en berne dans les sondages pour la liste de la majorité, les déplacements du président de la République devraient se multiplier.
Parlons maintenant de la préparation des Jeux Olympiques. Olivier Weber, 656 personnes décédées dans la rue l'année dernière en France. C'est le triste décompte fait par le collectif Les Morts de la Rue. Une lecture des noms de ces sans-abri était organisée à Paris, mardi, dans les arènes de Lutèce. Un lieu symbolique choisi pour alerter sur le déplacement des SDF à l'approche de ces Jeux Olympiques. Pierre Olivier.
Johanna, 47 ans, le 5 mai à Paris, 18e.
Pour eux, les Jeux sont faits, peut-on lire sur une banderole. Mais pour des centaines d'autres sans-abri encore en vie, déplacés en province, les JO, ce ne sera pas pour eux. Sophie est une ancienne sans domicile fixe.
Moi, j'ai un copain, il était sur Paris, du côté d'Hôtel de Ville, en tente. Il a été emmené à Rouen. On lui a pas demandé son avis. Il faut que ce soit nickel pour les JO, les SDF, ils n'existent pas.
Un nettoyage social à l'approche des Jeux que n'accepte pas Bérangère Grisoni, présidente du collectif Les Morts de la Rue.
Ça a commencé depuis l'été dernier, avec des déplacements soi-disant volontaires pour certains, avec rien qui les attendait à part quelques nuitées d'hôtel.
Avec ces déplacements, les associations craignent que le nombre de décès dans la rue augmente un peu plus encore l'année prochaine. Adèle Lenormand, du collectif Les Morts de la Rue.
Les personnes, c'est leur domicile quand elles sont par exemple dans une tente. Donc les déplacer comme ça, ça a un réel impact. Ça a un impact sur leur suivi social, sur leur suivi médical. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup.
De son côté, la préfecture assure qu'elle propose des places dans des hébergements en dur aux SDF. L'année dernière, 656 personnes décédées dans la rue ont été recensées. Un chiffre qu'il faudrait multiplier par 5 pour s'approcher de la réalité.
Daniel, 36 ans, le 7 mai à Vernouillet.
Jeux Olympiques, toujours avant de vous retrouver, Olivier Weber. Les sportifs russes et biélorusses étaient déjà privés de drapeaux et d'hymnes nationaux aux Jeux de Paris. Les voilà désormais privés de cérémonie d'ouverture, décision du Comité international olympique. Depuis Lausanne, le Comité international olympique donc serre la vis à l'encontre des pays qui ont envahi ou soutenu l'invasion de l'Ukraine. Correspondance en Suisse de Jérémy Lanche.
Les sportifs russes et biélorusses pourront tout de même suivre la cérémonie, dit le CIO, qui ne précise pas comment. Pour la cérémonie de clôture, rien n'est tranché encore puisque ce ne sont pas les équipes qui défilent, mais les athlètes de manière individuelle. Le Comité international olympique a fait les comptes. 12 sportifs russes et 7 biélorusses se sont pour le moment qualifiés pour Paris 2024. Ils devraient être une soixantaine en tout à obtenir leur ticket. C'est très peu par rapport aux 434 athlètes russes et biélorusses des Jeux de Tokyo. Les conditions de leur participation sont connues, pas de soutien à la guerre, pas d'équipe, que des individuels, une bannière neutre. Un comité d'examen va valider chaque qualification, à charge pour ses membres de veiller ensuite au respect des règles pour chacun de ses athlètes pendant tous les Jeux. En cas de violation du règlement, s'ils affichent un drapeau russe par exemple, le comité pourra saisir la commission de discipline du CIO, le CIO qui s'en était déjà pris à la Russie, accusé de politiser le sport avec ces Jeux de l'amitié que Moscou souhaite organiser juste après Paris.
L'actualité en France est aussi le rejet par le Sénat du projet CETA de libre-échange avec le Canada, c'est à suivre évidemment. Et la mort de Frédéric Mitterrand, ancien homme de télévision et ancien ministre de la Culture. Suite de cet avant-dernier numéro d'une semaine d'actualité en compagnie d'Olivier Weber, qui vient d'écrire « De l'esprit de résistance », un livre publié aux éditions de l'Homme. Et vous souhaitiez, Olivier, réagir à la visite d'Emmanuel Macron à Marseille et sur la situation de Marseille en général face à la drogue.
Oui, bah d'une part, cette visite marque quand même l'engagement de l'État, malgré les critiques, aux côtés des citoyens et des Marseillais, c'est très important. Deuxièmement, évidemment, avec ce pourcentage important de l'économie parallèle souterraine dans le PNB français, on sait très bien que les trafiquants de drogue fait florès. Ce qui marche, c'est bien sûr d'incarner l'État régalien, l'exécutif, c'est ce qu'a fait le président français. Je pense que c'était nécessaire que d'aller au-devant aussi des citoyens qui s'engagent contre le trafic de drogue et puis des forces de police. Mais deuxièmement, on sait très bien ce qui marche, c'est la saisie des biens des trafiquants de drogue. Et c'est engagé avec différentes procédures depuis quelques années. Et il y a eu des saisies jusqu'au Maroc, d'ailleurs, de biens de trafiquants différentes drogues, de biens immobiliers, mais pas que. Ça peut être aussi des biens mobiliers, c'est-à-dire en fait des actions ou des avoirs financiers dans des banques. Et voilà, c'est ce qui fait peur aux trafiquants. C'est un travail de longue haleine. On sait très bien que voilà, les drogues, y compris surtout chimiques, sont difficilement identifiables. Deuxièmement, le volume que ça représente est minime, surtout quand il s'agit de drogues chimiques, donc de synthèse. Et puis troisièmement, que la chaîne entre la production et le consommateur, on va dire, se réduit de plus en plus. Quand il s'agit de cocaïne ou de hashish, bah évidemment, cela vient d'Amérique du Sud ou du Maroc ou d'ailleurs. Il y a toute une chaîne. Ce sont des drogues dites au départ issues de plantes naturelles. Mais quand il s'agit de transformations chimiques, ça peut être fait dans un labo, comme on l'a vu aux États-Unis avec des laborantins, des trafiquants qui ont 18 ans ou 20 ans et qui vendent ça à leurs cousins, etc. Donc, la mise en place d'une lutte anti-drogue est très difficile. Évidemment, il en va aussi de la responsabilité du consommateur. On sait très bien que la drogue tue et que il faut savoir s'en défaire. Et donc, en même temps, ce que j'ai enseigné ça aussi quand j'étais maître de conférence à Sciences Po et en allant surtout sur le terrain de l'Amazonie à l'Afrique et surtout à l'Afghanistan, en Birmanie, cela encourage aussi non seulement des réseaux de trafiquants, mais des mouvements armés de type taliban. Les talibans aujourd'hui au pouvoir en Afghanistan depuis le 15 août 2021, qui mettent littéralement un pays de 40 millions d'habitants en cage et qui privent les droits de toutes leurs femmes, eh bien les talibans, cette milice totalement extérieure à l'Afghanistan historiquement, se nourrissent au niveau des revenus du trafic de drogue qu'on appelle le tariac. Donc en fait c'est l'opium qui permet de faire de l'héroïne. Donc il n'y a nulle question d'encourager au contraire les trafiquants et bien sûr les mouvements islamistes qui sont parfois derrière.
Olivier Weber, vous allez sur le terrain, comme on dit, vous voyagez beaucoup, vous regardez, vous observez l'histoire qui se fait, vous la racontez dans vos livres, mais il arrive parfois que l'histoire vienne vers vous, en quelque sorte. C'était le cas le 13 novembre 2015.
Oui, dans une séquence assez incroyable dans le temps, en quelques heures, puisque je revenais d'Irak et du Kurdistan d'Irak, où je me trouvais avec des combattants kurdes qui luttent contre Daesh et l'État islamique, qui ont sacrifié 13 500 des leurs, surtout en Syrie, donc 13 500 morts, hommes et femmes, surtout des jeunes, pour protéger les pays d'Europe et d'ailleurs de la vague de Daesh et de l'État islamique et du terrorisme. Et puis j'étais au cimetière à Paris du Père Lachaise pour l'incinération d'un ami qui était le philosophe André Glucksmann, qui était un philosophe qui allait beaucoup sur le terrain pour dénoncer le totalitarisme et qui avait été en Tchétchénie d'ailleurs, un pays que je connais également. Et en sortant sous la pluie du cimetière, j'apprends en passant pratiquement devant les attentats du Bataclan et ailleurs à Paris. Donc il y a une séquence incroyable dans le temps. Je rentre d'un maquis de résistance, on va le dire comme ça, avec une entité de plusieurs dizaines de millions d'habitants qui s'appelle le ou les Kurdistan, et j'assiste à l'incinération d'un ami philosophe et puis voilà le drame qui survient en France et à Paris et ailleurs. Dans Paris, avec la démonstration que finalement il y a aussi le danger parmi nous et qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas privilégier ce radicalisme islamique qui pour moi n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont mes amis musulmans d'Algérie, du Kurdistan, d'Afghanistan qui me le disent eux-mêmes en disant mais ces groupes armés, ces groupes de talibans, de Daesh, d'État islamique et d'Al-Qaïda, etc. n'ont rien à voir, massacre des civils, massacre des femmes, massacre des enfants. Et donc il y avait une séquence incroyable qui nous rappelle que finalement il faut faire acte de résistance, il faut faire acte d'engagement. C'est pour ça aussi que je me rends sur le terrain, que je suis un écrivain mais que je ne reste pas à Paris pour écrire mes livres, que j'essaye aussi de récolter la parole de ces personnes engagées dans l'esprit de résistance de par le monde, et c'est une belle leçon pour nous tous.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages, vos très nombreux messages de fidélité et d'amitié. Impossible de vous citer tous, hélas. Je salue quand même aujourd'hui Mohamedou, qui enregistre l'émission pour garder un souvenir de celle-ci à Garoua, dans le Nord Cameroun. Il avait enregistré notamment notre émission avec Alejandro Valente, que nous avions invité, l'ancien chef des sports de RFI, qui nous avait raconté son enfance argentine. Bonjour à Dina, qui nous écoute, lui, à Madagascar depuis 2009. À Salifou, à Niamey, qui est fidèle, lui, depuis 2000. Bonjour à Samy, à Kinshasa, à l'écoute depuis le début, depuis 1996. À Siradio, à l'écoute depuis Télémélé, en Guinée, depuis 19 ans. Salut à Junior, à Kinshasa. Mon adolescence a été bercée par l'émission, écrit-il. Merci, Junior, j'espère que cela vous a porté chance. Bonjour à Elisabeth et à Ariane, qui sont auditrices de l'émission depuis 14 ans. Un salut enfin à Alceni, à l'Abbé, en Guinée, depuis 2021. Et à Jean, qui nous écoute, lui, depuis le début, depuis 1996, d'abord à Haïti et ensuite en Floride.
Sept jours en Afrique.
Et suite de cet avant-dernier numéro d'une semaine d'actualité en Afrique, effectivement, Olivier Weber, un continent que vous connaissez aussi. Et nous allons parler du Niger. Le Niger qui a décidé de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis avec effet immédiat, dit Niamey. Officiellement, Niamey affirme que l'accord de défense entre les deux pays était injuste et imposé de manière unilatérale, disent les autorités. Plus de détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
Le Niger abrite la deuxième plus grande base américaine sur le continent africain après celle de Djibouti. 1100 soldats venus des États-Unis, engagés dans la lutte antiterroriste, y résident et disposent d'une importante plateforme de drones à Agadez dans le nord. Plier bagages signifierait pour eux se priver d'importants sites de renseignement et d'opérations. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant pour nous, explique un responsable du ministère nigérien de la Sécurité. Il affirme par exemple que le partenaire américain refuse de partager les précieuses informations recueillies sur les groupes djihadistes dans le Sahel. Mais la visite cette semaine à Niamey d'une délégation américaine a probablement précipité la rupture de la coopération militaire entre les deux pays. Madame Molifi, secrétaire d'État américaine adjointe aux affaires africaines, qui n'a été reçue que par le Premier ministre nigérien, a abordé plusieurs sujets qui fâchent, le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi les relations entre le Niger et l'Iran. Téhéran aide notamment Niamey à résoudre la crise énergétique et serait en retour intéressé par l'uranium nigérien.
Et alors que les États-Unis voient donc leurs relations se dégrader avec le Niger, la stratégie américaine semble également en échec en Centrafrique, où ils espéraient détourner les autorités de leur alliance avec les paramilitaires issus du groupe Wagner. La Russie mène une contre-offensive ces dernières semaines. Depuis la dernière visite du président Touadéra mi-février, les déplacements d'officiels centrafricains à Moscou se sont enchaînés en parallèle de multiples attaques visant les États-Unis. François Mazet.
Parmi les délégations étrangères conviées pour observer la réélection plébiscitaire de Vladimir Poutine, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Simplice Mathieu Sarrangi, et celui de l'Autorité nationale des élections, Mathias Moruba. Quelques jours auparavant, c'est le Premier ministre qui était à Moscou. Dans une interview aux médias d'État Spoutnik, Félix Moloua a loué le travail extraordinaire des instructeurs russes et évoqué des discussions avancées en vue de nouveaux contrats dans le domaine militaire. Il a en revanche assuré qu'aucun engagement n'avait été pris avec le groupe américain Bancroft, dont l'arrivée avait été confirmée en décembre par la présidence centrafricaine. Dans la foulée, une dizaine de citoyens américains avaient été empêchés d'entrer en RCA, les interdictions de survol de drones renforcées, et selon le site africain Intelligence, le représentant de Bancroft à Bangui et son contact à la présidence avaient été arrêtés par les hommes de Wagner début janvier. Depuis, les médias et comptes financés par la Russie maintiennent la pression en multipliant les campagnes informationnelles anti-américaines en Centrafrique. Dans le même temps, vendredi, une cérémonie en grande pompe a été organisée à Bangui autour du président Touadéra pour la réception d'une première cargaison de blé russe transformée en farine au Cameroun.
Et l'actualité africaine, c'est aussi l'élection présidentielle au Sénégal. Demain, dimanche, évidemment, suite d'une semaine d'actualité. Olivier Weber, vous vouliez dire un mot sur la situation en Centrafrique et la présence de plus en plus forte des Russes dans ce pays?
Oui, absolument. Crise de plus forte en Centrafrique, mais aussi ailleurs. Déjà, vous en parliez, au Soudan, et bien dans bien d'autres pays. Donc cette avancée, premièrement, de ce que j'appelais le néo-empire russe aux côtés d'autres néo-empires comme l'Iran, qui est évidemment présente aussi en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, et la Chine, ainsi que le quatrième, qui est la Turquie. Donc il y a vraiment une sorte de de jeux d'influence, qui n'est pas forcément une lutte d'ailleurs, ce sont des ententes entre ces néo-empires. Et puis deuxièmement, une prédation, donc un colonialisme économique extrêmement fort, violent, on l'a vu au Mali avec les réserves d'or et d'autres minerais, on l'a vu au Soudan aussi avec Mero et Gold, qui est une société russe en fait maintenant, donc qui s'accapare une bonne partie de l'or produit par ce pays. Et donc on est dans une sorte de pillage des ressources de ce continent qui est un continent très riche en matières premières, de l'uranium au coltan, à la cassitérite et bien sûr à l'or et au diamant. Voilà, donc on assiste à ce colonialisme. Ce n'est pas nouveau certes, mais on est dans une ascension assez importante, vu qu'il y a quand même beaucoup des pays les moins avancés, les PMA, comme on dit, il y en a 47 au monde, d'après la nomenclature de l'ONU, qui sont des pays africains. Eh bien, c'est assez tentant, évidemment, de la part de dirigeants de dire oui à ces avancées, qui sont des avancées soit légales, entre guillemets, soit par la corruption. Donc, voilà, c'est important de le noter, parce que il y a un nouveau colonialisme qui est en train de se dessiner sur le continent africain.
Olivier Weber, dans l'avant-propos de votre livre, de l'esprit de résistance, vous insistez beaucoup sur un mot qui semble vous tenir à cœur, le mot « engagement ».
Oui, l'engagement, parce que bah, en tant qu'écrivain, écrivain voyageur, je me rends sur le terrain, j'y tiens, même pour des romans, ça peut paraître étrange, mais encore plus bien sûr pour des récits, pour des témoignages, parce que voilà, je suis à l'écoute de ce que j'appelle la rumeur du monde. C'est très enrichissant, c'est aussi important que de colporter la parole de ces personnes qu'on rencontre, des personnes de la vie de tous les jours qui ne sont pas connues, mais qui sont... Voilà, qui sont enrichissantes, qui gagnent à être connues, en tout cas, dont les expériences, les modes de vie doivent être relatés. Et donc oui, c'est un engagement de terrain, quelquefois c'est périlleux, surtout en zone de guerre, mais je ne fais pas que ça. Et voilà, c'est un... Là, pour ce livre, c'était aussi un devoir que de retourner dans ces zones, dans ces pays du monde, ces régions, où il y a des peuples en résistance, donc les Kurdes, les Afghans opposants aux talibans, les Ukrainiens, les Arméniens également. Donc voilà, c'est une volonté de témoignage qui passe par l'engagement.
Merci Olivier Weber. Votre livre s'intitule « De l'esprit de résistance ». Il est publié aux éditions de l'Aube. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et d'être venu ces dernières années, d'être venu nous parler de votre expérience et de vos témoignages. Merci beaucoup. Une semaine d'actualité réalisée par Tiffany Menta. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée qui, lui, poursuit sa route. Et avec la journaliste et essayiste Christine Kerdelan, nous nous intéresserons à ces milliardaires plus forts que les États, pour reprendre le titre de son dernier livre en date. Vous savez, il sera notamment question d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos. Idée demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Je vois les gouttes de pluie tomber et je remarque la beauté du soleil qui brille à travers. J'ai des arcs-en-ciel en pensée quand je pense à toi parfois. Je veux passer du temps avec toi, juste toi et moi. Tomber sur la fenêtre du couloir, c'est la...